Place aux mots, aux récits et aux auteurs de Dordogne. Voici la rubrique littéraire sur Happy Radio. Happy
Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique littéraire sur Happy Radio. Aujourd'hui, on part plusieurs milliers d'années en arrière, en plein cœur du néolithique, car la Dordogne, avant d'être un territoire des châteaux, des bastides et du foie gras, c'est aussi une terre de mégalithes, des dolmens, des menhirs, des beaux lissoirs, parfois cachés dans les bois, parfois en plein milieu d'un champ. Et justement, un nouveau livre vient juste de sortir, Dolmen et menhirs du Périgord, légendes et promenades, signé Josette Marteau-Château et Benoît Château, un ouvrage de 325 pages et 280 photos qui vous dresse un inventaire colossal avec ses monuments préhistoriques. On est en ligne avec donc Madame Josette Marteau-Château. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cet immense travail d'inventaire sur les dolmens et menhirs du Périgord ? C'est un patrimoine qui passe parfois sous les radars, on peut le dire.
Oui. Alors, d'abord, notre intérêt est croisé. Il y a mon intérêt pour les mégalithes et l'intérêt de Benoît Château pour la photographie. Et l'ouvrage sur le Périgord est notre cinquième ouvrage. Il fait suite à la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne et notre département où nous habitons, la Vienne. Alors, l'intérêt pour le Périgord, effectivement, les dolmens et menhirs sont bien cachés dans le Périgord. Ils sont peut-être peu connus et c'est certainement dû au fait que votre région est beaucoup plus connue pour ses grottes ornées que pour ses monuments très discrets.
Effectivement, on en parle moins. Je reviens à votre livre. Ça mélange effectivement photos, explications archéologiques et aussi légendes. Pourquoi était-ce important pour vous de garder cette dimension un peu imaginaire autour des mégalithes ?
Face aux mégalithes, je pense que tout visiteur a son imagination frappé par ces grosses pierres, frappé par le fait qu'elles ont été transportées alors que les hommes d'alors n'avaient aucun outil que nous avons maintenant pour le faire, frappé par les sculptures qu'elles dessinent, puisque usées par les ans, ces pierres prennent des positions qui sont très sculpturales dans certains cas. Donc ce sont des monuments qui frappent énormément l'imagination depuis longtemps. Ces pierres ont fait l'objet de légendes et pour expliquer la manière dont elles ont été assemblées. Alors, ces légendes abordent souvent l'intervention des fées, de la Vierge, des géants, du diable. Et parfois les loups interviennent, mais plutôt pour dire que ces pierres furent l'antre de loups.
D'accord, c'est vraiment très intéressant, j'adore les histoires comme ça, et donc on va pouvoir en retrouver, j'imagine, dans tout le livre. Si on revient un peu sur les monuments que vous recensez, il y en a encore qui sont en place, mais il y a aussi des monuments disparus. Comment vous travaillez des mégalithes qui n'existent plus au final, comment vous basez ?
Ce livre d'abord demande beaucoup de documentation. Nous revenons aux ouvrages, aux écrits qui ont été faits au 19e, car c'est la fin du 19e siècle que des inventaires de ces monuments à l'échelle de la France ont été réalisés. Donc nous revenons aux revues qui ont publié les travaux faits par ces chercheurs du 19e siècle et qui ont déjà, eux, fait l'inventaire des monuments existants et de ceux qui, dans la tradition ou au dire des anciens, existaient en tel et tel lieu et ont été détruits à telle ou telle date. Donc nous avons cela comme point de repère. Et puis, depuis le 19e, d'autres chercheurs ont travaillé. Et puis, on peut en venir à une époque récente, puisque au moment où nous faisions les photos dans le Périgord, deux monuments nous ont été dits détruits. Nous en avons vu un détruit, qui est à Saint-Saul-la-Coussière. Il existait 6 mois avant notre passage. Et là, le propriétaire l'avait fait repousser hors de son champ et les pierres en étaient alignées tel un pavage dans ce qui reste d'un vieux chemin communal. Et quant à l'autre, nous ne l'avons pas vu, détruit ni rien du tout. Le propriétaire nous a simplement dit que là, de trouver aux abords de sa pierre des restes de
beuveries
et autre chose, il avait détruit sa pierre au Marco Polo.
On entend Benoît Château derrière. D'accord, donc il y a toujours une histoire derrière, même maintenant.
Oui, la dernière pierre avait des vertus aphrodisiaques.
Ah oui, d'accord. Ah bah, là, je sais qu'on tient nos auditeurs, là. La Dordogne compte plus d'une centaine de monuments mégalithiques. Vous en avez vu quand même beaucoup. Est-ce que certains vous ont particulièrement impressionné ou surpris? Bon, là, on en a déjà un peu parlé d'une anecdote sympathique, mais il y a peut-être des choses qui vous ont fait vous sentir petit ou incroyablement grand, je ne sais pas.
Ben, grand, face à ces monuments, je ne pense pas qu'on puisse se sentir grand, compte tenu de ce que l'on sait du passé lointain. Petit, souvent, oui. Il y a le dolmen de Perlevat de Possac, Saint-Vivien, qui est même s'il a été restauré de Guingois, reste quand même un très beau monument, très puissant. Il y a celui de Brantôme qui a également souffert d'une restauration un peu curieuse. Il reste vraiment un très très grand monument. Il y a l'allée couverte du Blanc, qui est une allée couverte magnifique, qui elle a été, au dire de la légende, construite par la Vierge pour protéger une bergère en période de pluie. Ce monument du Blanc est très 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 beau. Il y en a des plus petits, mais qui sont également... Il y a celui de Apessac, qui est un petit monument qu'il faut vraiment chercher, parce que là, il est dans un taillis très dense.
Très, très dense.
Très dense et difficilement accessible.
C'est vrai qu'il y a une... J'ai l'impression qu'il y a une volonté de pédagogie, comme vous êtes en train d'expliquer, montrer au grand public comment regarder un dolmen. Ce que signifient les formes, les emplacements. Selon vous, qu'est-ce que les gens ne savent pas sur ces monuments ?
Il y a différentes choses qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas d'abord, c'est une erreur que nous entendons souvent, ces monuments n'ont pas été construits par les Gaulois, mais par des hommes du Néolithique, c'est-à-dire 3000 ans en arrière.
3000 ans avant les Gaulois.
Avant les Gaulois. Ils sont souvent implantés en point haut, très rarement dans les vallées, parce que ces monuments devaient être vus, devaient être repérés. Et bien sûr, au moment où ils ont été construits, il n'y avait pas les bois autour. C'était en terrain plat et des landes. Et c'était souvent des landes, oui. Ils ne savent souvent pas que ce sont pour les dolmens des monuments funéraires. Donc là, c'était des monuments qui contenaient de 1 à, quand ils sont très grands, une centaine de squelettes. Cela a été découvert en terrain, on a pu les comptabiliser, ces squelettes-là, en terrain calcaire, parce qu'en terrain granitique, les os sont avalés dissous par les acides.
Comment vous avez choisi tous ces monuments ? J'ai l'impression qu'il y en a plein de différents, en plus de ce que vous êtes en train de me détailler. Et comment vous avez choisi lesquels mettre en avant ?
Nous avons mis tous ceux que nous avons pu photographier.
C'est pas un choix.
C'est pas un choix.
Non. Tous ceux qu'on a pu approcher et photographier sont dans le livre, à part deux ou trois où certains propriétaires un peu revêches ne nous ont pas donné accès au monument, mais sinon ils sont tous ceux qui sont actuellement répertoriés comme non détruits. Donc on a pu les trouver et les photographier.
J'espère que vous n'avez pas pris de coups de fourche pour avoir essayé de photographier.
Non. En règle générale, faut quand même le dire, en règle générale, nous avons été très bien accueillis.
Bon.
Très bien accueillis.
Très bien, la Dordogne s'est accueillie.
Les propriétaires des terrains sur lesquels ces monuments sont élevés sont, en règle générale, fiers de leurs monuments et fiers de pouvoir les montrer. Mais il y en a deux ou trois là qui ne le sont pas.
Mais parmi ceux qui étaient sympathiques, si on prend le positif plutôt, en travaillant sur ce livre, j'imagine que vous avez découvert au moins un lieu qui vous a vraiment frappé, qu'il faudrait justement pour nos amis périgourdins, nos auditeurs périgourdins plutôt, qui devraient absolument aller voir au moins une fois dans leur vie. Pour vous, ce serait lequel ?
Ah, il y a un site que j'aime beaucoup, moi, c'est à Marsalès. C'est un site qui est quand même répertorié. Hein.
D'accord.
Il y a deux allées couvertes. Une extrêmement dégradée et une autre vraiment très, très lisible. Ce sont des vestiges, hein. Elles ne sont pas aussi belles que la découverte du Blanc, mais il y a une toute petite promenade en forêt forêt et il y a un joli site. Enfin, la commune a déboisé un espace autour.
L'association.
Ou l'association de Montpazier, je ne sais plus. A déboisé un espace et c'est vraiment un endroit.
Joli lieu de promenade.
Très joli lieu de promenade, de méditation, si l'on veut. C'est très calme, très reposant et où on embrasse des millénaires, là.
Vous me donnez vraiment envie d'y aller. Pour finir, ma dernière question, si vous deviez donner une raison simple d'ouvrir ce livre, qu'est-ce que lire Dolmen et menhir du Périgord permet de comprendre sur notre territoire périgourdin à nous ?
Eh bien, que la vie a continué après les grottes ornées, que d'autres populations se sont installées en Périgord, et qu'elles ont été certainement ces populations nombreuses, puisque il y a quand même beaucoup de monuments, ceux que nous avons pu photographier, et nous en avons dénombré 47 de détruits qui avaient été répertoriés avant. Donc d'autres ont été détruits qui n'ont pas été répertoriés. Ce sont quand même des ancêtres plus proches que ceux des grottes ornées, puisque ce sont les premiers éleveurs-agriculteurs et sédentaires, on va dire à 3-4 000 ans. Ce sont nos ancêtres qui ont initié la vie que nous menons finalement. Ils ont inventé l'artisanat, ils ont inventé le vivre ensemble en village, ils ont inventé la communauté, l'organisation en tout cas des villages, sociale des villages, des outils pour transporter ces blocs et les dresser, la poterie, la vannerie, le tissage, les premiers métiers à tisser. Donc ce sont nos très lointains ancêtres qui, certainement, de tous les ancêtres, nous ressemblent le plus.
J'ai hâte de découvrir ce livre, parce que ça va me donner envie d'aller me promener dans plein d'endroits du Périgord pour découvrir tout ça. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre travail qui met réellement en lumière un patrimoine souvent méconnu, on peut le dire, et pourtant essentiel à l'histoire humaine. Le livre Dolmen et menhir du Périgord, légende et promenade, est disponible en librairie depuis déjà un mois, il me semble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Oui, c'était mettre en lumière ce patrimoine est pour nous très, très important. Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter la rubrique littéraire sur Happy Radio, à retrouver en podcast sur happyradio.fr. Happy Radio.